Bon, ben, un sujet comme ça est très très vaste quand on dit histoire des musulmans. Et on va cibler un peu sur ce qu'il est convenu d'appeler l'organisation de l'islam en France. Et donc il y a trois points. D'abord, la très grande ancienneté du problème. Deux, la lenteur du processus, malgré le volontarisme des ministres qui ont voulu vraiment organiser l'islam pour le faire sortir de son statut spécial hérité de la période coloniale. Troisièmement, la maigreur des résultats, des bilans. Ancienneté, le tournant, c'est 1838, début de la conquête de l'Algérie, qui a commencé par un bras de fer entre le Vatican et le Quai d'Orsay, où il y avait le prince de Breuil, très très gallican, qui convoquait régulièrement le nonce apostolique à cause de l'envoi de prêtres en Algérie sans autorisation. Le nonce apostolique disait, on n'a pas besoin d'autorisation. L'autorisation, c'est le concordat de Napoléon de 1804, je crois. Or, le concordat ne s'applique pas à l'Algérie. Et les militaires ont mis 8 ans pour imposer l'application du concordat à l'Algérie. Il faut les autorisations. Et à partir de là, on avait quelqu'un de Saint-Simonien, juif, qui allait en Algérie parce qu'il y avait beaucoup de Saint-Simoniens. Dès que cette crise a été dénouée, il a dit, il faut créer un consistoire juif en Algérie. C'est Destal. Si vous avez été à Sciences Po, il y a un grand amphi qui porte le nom de Destal. Et ça a mis beaucoup de temps, mais on a calqué, si vous voulez, l'organisation du judaïsme, le judaïsme algérien. On est avant le décret Crémieux, on appelait ça des indigènes, sujets français mais non citoyens. Mais on a accepté d'organiser autour d'un consistoire comme celui qui a été créé en application du Concordat. Or, Destal était l'ami d'Ismaël Urbain, qui finira conseiller de Napoléon III pour toutes ces questions, et qui était musulman. C'était un mulâtre donc des îles. Et malgré donc son influence, Ismaël Urbain n'a jamais réussi à créer un consistoire musulman. Chaque fois, ce serait très long à expliquer. Et donc, on arrive jusqu'à les premières lois sur les congrégations de 1904, puis la loi de 1905, qui est applicable à l'islam en vertu de son dernier article 43.
Je peux juste vous interrompre. Qu'est-ce qui l'empêchait de cette création du consistoire musulman? Ça venait de l'État, du côté de l'État français ou du côté de l'islam
Non, 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 l'islam était complètement.
désorganisé?
Non, l'islam, il acceptait ce qu'on décidait parce qu'il y avait une direction des affaires indigènes au gouvernement général. Les historiens très objectifs comme Ageron, qui a vraiment étudié tout le courrier 400 lettres d'Ismaël Urbain, dit que c'est l'Église catholique qui s'y opposait. C'était notamment du temps de l'Avégerie, fondateur des Pères Blancs. Et il voulait. Bon, la politique de l'Église a beaucoup changé. Les Pères Blancs, héritiers comme le Père Lelon, sont devenus les pionniers du dialogue islamo-chrétien, respect total, pour rompre avec ces mauvaises habitudes. Et donc, la loi de 1905 s'applique à l'islam, puisqu'on a promulgué un décret d'application en 1907, mais on a en fait temporisé tous les 10 ans. On s'est donné un délai de 10 ans pour préparer les esprits, disait le grand Luciani, qui était un spécialiste du code de l'indigénat. Il a chapitré un gouverneur franc-maçon, Luteau, qui dès qu'il a été nommé à Paris. Il situe à peine l'Algérie sur la carte. Il a dit, on me dit qu'il y a les sauterelles, les famines, les bandits d'honneur, je vais m'en occuper une fois à Alger. Et ce que je peux promettre à partir d'ici, c'est l'application de la loi de 1905 à l'islam. Il a été nommé en 1916. Arrivé là-bas, il se fait chapitrer par son directeur des affaires indigènes, qui lui dit, Monsieur le gouverneur, les lois métropolitaines ont du bon, mais dans leur application outre-mer, il s'agit de tenir compte des couleurs locales. Et tenir compte des couleurs locales concernant la loi de 1905 appliquée à l'islam, c'est de la reporter pour une durée indéterminée. Parce qu'un culte musulman indépendant nous poserait des problèmes. parce qu'il y avait les panislamistes, le nationalisme arabe, le bolchevisme musulman. C'est juste au moment où Lénine faisait des appels aux musulmans. Même Al-Azhar a soutenu la révolution bolchevique en 1917, jusqu'à ce que les Britanniques lui imposent un communiqué à 180 degrés. Vous voyez, c'est l'équivalent des salafistes de Daesh aujourd'hui, les craintes d'un islam subversif ont justifié le maintien de l'islam local dans un statut spécial. Et donc ça a été un véritable serpent de mer jusqu'en 1947. Donc là, les guerres mondiales accélèrent un peu l'histoire, qui piétinait par manque de volonté politique ou de volonté contraire à l'esprit de l'application des lois. Alors, en 1947, on a promulgué ce qu'on appelait le statut organique de l'Algérie, septembre 47, où les indigènes musulmans étaient considérés comme des sujets français, mais non citoyens. Par exemple, ils pouvaient voter, mais ils n'avaient pas le droit de présenter. Ils étaient électeurs non éligibles. Or, le général de Gaulle, en mars 45, il a donné à une catégorie d'Algériens la possibilité de se présenter à la députation. C'est le fameux ordre. De Gaulle a réglé tous ses problèmes par ordonnance. Il ne consultait personne. Et le statut de 47, là, c'était le gouvernement Ramadier, un grand homme de gauche qui s'appelait Depreux, ministre de l'Intérieur, qui a fait une sorte de repentance devant les deux chambres en août 47. Nous avons été injustes avec l'islam, nous avons temporisé, fait de l'obstruction dans l'application de la loi de 1905 à l'islam. Désormais, cette église musulmane sera respectée au même titre que les autres églises. Et puis, on a sorti les études qui dataient de 1905, puisque après la loi de 1905, on a commencé en France ce qu'on appelle les inventaires, qui sont un très mauvais souvenir pour l'église catholique, l'inventaire des biens d'église à confisquer. Mais l'inventaire, dans le cas de l'Algérie, c'est l'inventaire des biens habous, de main morte, confisqués par le général Clausel et qui auraient dû être restitués à un conseil supérieur islamique. En 1947, on a évalué à 700 milliards les biens d'église, entre guillemets, musulmanes, qui auraient dû être restitués s'il y avait une application loyale de la loi. Or, on a constaté qu'il y avait des usines, il y avait des villes dans les terres confisquées à l'époque. Ils ont dit, on s'est mis à parler d'une indemnisation forfaitaire perpétuelle sous forme de subvention d'une université musulmane où la théologie pouvait être enseignée, un peu comme à Strasbourg, pour indemniser ces biens. Donc on a réglé, si vous voulez, les deux problèmes, le problème du financement et le problème de l'enseignement. Mais sur le papier seulement. Alors après, il y avait une obstruction qui continue. On a créé une commission du culte qui a travaillé de 1950 à 1953 pour... moi, je découvre pour la première fois la formule le conseil de fabrique qui existe, je crois, encore à Strasbourg, où on a des comités paroissiaux qui élisent jusqu'à un conseil supérieur. On a étudié toutes les modalités, mais le gouvernement général ne voulait pas lâcher du lest. Il a dit on va consulter le conseil d'État. Le conseil d'État a émis un arrêt, je crois, plus qu'un avis. Il n'appartient pas à un pouvoir laïque d'organiser une religion. Et là, ça a créé un conflit avec tous les membres musulmans qui étaient de parfaits bilingues. Et donc, si vous voulez, sur le papier, le problème a été réglé. C'est-à-dire, cette religion a besoin de... On ne peut pas se contenter de la reconnaissance du respect de l'essence de la religion musulmane. Il lui faut des moyens d'existence. Et puis... des établissements pour l'intelligence de la foi, la formation des cadres religieux, etc. Tout de Châtaigneau, qui était un gouverneur très libéral, gaulliste, etc., et un peu SFIO. Ça existait, la double appartenance à l'époque. Mais après, il a été victime d'un putsch. On l'a remplacé par Nejlen en 1948, qui était un grand socialiste, ex-ministre de l'Éducation, et qui a laissé... qui est rentré dans l'histoire parce qu'il a ordonné la fraude électorale. Jusqu'à maintenant, quand on parle de la fraude de Ouyahia en Algérie, on dit les élections à la Nejlène. Et donc, 1947, c'était d'autres espoirs soulevés par des promesses. Et dans ses mémoires, qui sont très très intéressantes à lire, Édouard Despreux a dit, moi j'ai promis, en fonction de ma lecture du droit, mais je n'ai pas encore compris pourquoi l'État français n'a pas tenu les promesses que j'ai tenues en son nom en août 1947. Et donc, après, c'est la guerre d'Algérie qui commence, où ces questions deviennent... Les ulamas, par exemple, revendiquaient l'indépendance du culte musulman, et compte tenu de ce blocage, ils se sont mis à réclamer l'indépendance tout court, l'indépendance politique. Alors que si on avait lâché du lest pour reconnaître l'indépendance du culte musulman, la moitié des ulamas n'auraient pas rejoint le FLN. Ils se seraient contentés de ça. Et donc, c'est resté en l'état jusqu'à un autre tournant, mai 57. Cette mosquée a été ouverte en 1926. Elle avait un directeur. Et elle s'appelait Institut musulman de la mosquée de Paris. Le mot institut servait à justifier des financements publics, à la fois de la mairie de Paris, de ministères et des deux résidences générales de Tunisie et du Maroc et du gouvernement général. Mais en fait, l'institut, il n'y avait que ça. Il y a eu un grand article de 1948 où vous avez un élu à Alger qui est venu à la session de l'ONU en 1948 qui avait lieu au Trocadéro, au Palais Chaillot. Il est venu faire ses dévotions ici. Il a dit, je veux visiter l'Institut. On a été réveillé, l'imam, avec une clé beaucoup plus grosse que celle qu'on... Il lui a ouvert ici, il a dit, j'ai trouvé des chaises qui n'ont jamais été utilisées depuis 1937, avec des poussières. Il lui a dit, c'est ça l'Institut? Il dit, oui, c'est ça. On fait quelques réunions quand il y a des invités. Et donc, à Alger, il a demandé la suppression de la subvention qui était versée à un institut qui n'existait pas. Or, cet institut, son directeur était mort en 54, et ça a traîné jusqu'en mai 57. Le gouvernement socialiste de l'époque, dirigé par Guy Mollet, désigne un directeur qui était membre de la SFIO, qui s'appelait Hamza Boubakar, le père de l'actuel. Or, Boubakar avait candidaté pour être recteur d'académie, parce qu'il a fui la guerre à Alger, il était prof au grand lycée d'Alger. Et lui, il m'a dit, moi je tutoie Guy Mollet, il lui dit, camarade Guy Mollet, il faut me trouver un emploi, je ne peux pas rentrer à Alger, qu'est-ce que tu peux faire? Je voudrais être recteur d'académie. Il présente sa candidature à la commission ad hoc, il dit, un petit prof de lycée ne peut pas diriger des universités. Donc, ça a été refusé. Alors, une fois qu'il a eu un plan B ici, il s'est intitulé recteur. Alors qu'avant, c'était directeur. Ça vient de là, recteur. Oui. Et alors, le tenant du titre qui était réfugié au Maroc, le neveu de Ben Rabrid, a porté plainte devant le tribunal administratif qui casse la nomination par Guy Mollet de Boubakar. Recours au Conseil d'État, même condamnation. Il n'appartient pas au chef d'un gouvernement laïque, surtout quand il est socialiste, de nommer un dignitaire religieux. Moyennant quoi, le bénéficiaire reste 25 ans, 57 à 82.
C'est souple le droit.
Et oui, mais le droit n'a jamais été le fondement des relations avec l'islam. Oui. Et donc, je vous passe les détails. Boubakar, agrégé d'arabe,
On parle du père, toujours.
Le père, oui. L'actuel est un médecin moins manœuvrier que le père, infiniment moins. Boubakar était prof. Et il a mis en avant le mot institut. Or, le droit permet de détacher un professeur à la tête d'un établissement culturel. Oui. Donc, il a gardé son traitement de prof agrégé, détaché. Et plus d'autres subventions, mais il s'est contenté de ce détachement. Il a fallu que Ben Rabrit porte plainte de Rabat pour qu'il rédige des statuts sensiblement différent des statuts de 1917. Parce que ça s'appelait Société d'Ahabous des lieux saints, c'est traduction de l'arabe, parce qu'il y avait deux immeubles ouverts en 1917 pour accueillir les pèlerins maghrébins, et c'était un bien Ahabous dont les statuts étaient déposés à la Mahkama, la magistrature malikite d'Alger. Or lui, il l'a appelé Société d'Ahabous et lieux saints. Et jusqu'à maintenant, bon, il a joué sur les deux tableaux, parce qu'il est détaché par Guy Mollet à la tête de cette nouvelle association qui insiste sur le côté enseignement, recherche, documentation, etc. Mais en traduisant en arabe, il retombe sur à peu près le premier intitulé, ce qui lui a permis de réclamer l'indemnisation des deux immeubles qui ont été rasés par les Saoudiens en 1965. Il se disait propriétaire et il a réclamé 1 milliard de l'époque. Or, le roi Faisal, quand il est venu invité par Pompidou, 72 ou 13, a refusé de le recevoir. Il lui a dit « Votre association n'est pas l'héritière de la première. » Donc vous avez un contentieux, et puis quelqu'un qui était ici, il a mis en échec le bureau central des cultes, le Quai d'Orsay, l'Algérie, le Maroc, etc. Parce qu'il est, c'était vraiment il avait une casuistique imbattable. Bon. Et donc le système colonial est resté jusqu'à 1982, malgré plusieurs tentatives, j'en ai parlé dans mon livre, notamment le gouvernement Chaban Delmas, saisi par les trois ambassades du Maghreb, voulait déclarer la mosquée bien vacant et sans maître. Et c'est sur intervention de Michel Debré, qui était l'ami de Boubacar, il a dit « oui, mais... les Français musulmans ne sont pas prêts à diriger un établissement comme ça, alors qu'il y avait des préfets, il y avait des colonels, il y avait un ancien secrétaire d'État, et on a décrété qu'ils étaient incompétents. » Donc c'est Michel Debré qui lui a sauvé la mise, pour des raisons... parce que Michel Debré voulait détacher le Sahara de l'Algérie du Nord pour accorder l'indépendance de l'Algérie. Boubacar voulait être le roi ou le président du Sahara. Donc il lui était reconnaissant. Et là, il y a 10 000 mètres carrés. Le Sahara, c'est 2 millions de kilomètres carrés. Il se sentait vraiment à l'étroit dans ce petit espace. Bon. Voilà. Mais ceci dit, c'était un grand savant. Dans mon cours, j'enseigne ses livres qui sont excellents. Comme recteur, il était des plus contestables. Mais comme traducteur du Coran, il était comparable au prof du Collège de France. Ça pourrait être équitable. Et alors, le gouvernement Giscard d'Estaing, notamment Raymond Barre, a eu à s'occuper de cette affaire à partir de 1977. Il a créé la Commission nationale des Français musulmans, présidée par le secrétaire d'État aux rapatriés qui s'appelait Jacques Dominati, un républicain indépendant. Et donc, il n'y avait pas d'inconvénient à ce que le ministre lui-même préside une commission qui a eu à s'occuper du culte. Alors, elle s'est occupée du culte quand elle a admis parmi ses membres deux islamologues musulmans, Ali Merat, qui est mort en 2017 à Lyon, qui était un très grand connaisseur de tout l'islam contemporain, et Abdelmajid Toki, un directeur de recherche au CNRS, spécialiste du droit malikite, élève de Braunschweig, Laous, des grands orientalistes, quand il y avait vraiment une très bonne coopération entre intellectuels musulmans et orientalistes non musulmans, ce qui devient rarissime maintenant. Et c'est Ali Merat qui était chargé de faire un rapport sur ici. Il a constaté que l'institut pour lequel il y avait le versement de pas moins de 5 financements ministériels n'a jamais fonctionné depuis les histoires des chaises en poussière. Et donc Giscard a le rapport, il décide de couper les vivres à l'institut. Et le plan, cette commission, parce qu'il y avait un colonel, deux préfets, deux universitaires, un ancien secrétaire d'État. Le secrétaire d'État connaissait Lamassoure, si vous vous souvenez.
Henri Lamassoure.
Oui, qui est devenu député européen, qui était très écouté par Giscard. D'ailleurs, Giscard les a invités à déjeuner. Et il a envoyé une délégation au pèlerinage qui a déployé le drapeau tricolore pour la première fois sur le mont Arafat, avec une très belle lettre de Giscard. que je publierai la prochaine, parce que Giscard, bon, il était mal vu par la gauche et tout, mais c'est celui qui s'est occupé le plus sérieusement de cette affaire. Il a fait remettre par Abdel Majid Toki une lettre au roi d'Arabie pour dire la France est fière d'avoir des citoyens musulmans qui sont le trait d'union avec le monde de l'islam, c'est une religion respectable comme les autres. Il a fait rédiger, je ne sais pas par qui, et Giscard, bon, il était un catholique quand même, sensibilité religieuse. Et le plan, c'était organiser l'islam autour de la mosquée de Paris, à condition de séparer l'institut de la mosquée et d'ouvrir aux autres sensibilités, parce qu'il y avait un début de ce qu'on appelait l'islam marocain, entre guillemets, des associations marocaines qui n'obtiennent jamais un dirham du Maroc. Ils ont un soutien politique, mais c'est l'Arabie qui finance. C'est le début de l'influence saoudienne en Europe par quelques succès.
C'est l'ouverture de la mosquée ou l'ouverture de l'institut ?
La mosquée était ouverte depuis 26, mais eux,
ils voulaient... Non, mais je veux dire, quand vous parlez d'ouverture sur la politique giscardienne, c'est pour une ouverture de l'institut ou une ouverture de la mosquée ?
Séparer les deux.
Oui.
Et ouvrir la société des Habous, qui était
ouais.
C'était un bien familial, oui. Aux autres sensibilités. Il y avait des préfets qui venaient, mais ils n'avaient pas accès. Il y avait même des noms fictifs. Quand on va à la préfecture de police, vous savez, le bureau des associations, ils vous envoient tous les PV. Il y a des PV qui sont signés dans l'appartement de Boubacar, avec des noms fictifs. Mais personne n'a vérifié. C'est ça la séparation du politique et du religieux qui permet de n'importe quel errement. Et Giscard a promis de mettre en application les recommandations de cette commission qui, à mon avis, c'est celle qui a le mieux travaillé pour des raisons très simples. Le Baraco qui venait prier ici, il m'a dit « Moi, je reverse 75% de ma retraite au fisc. » Donc, il n'avait besoin de rien. Après, quand on s'est mis à faire venir l'UOIF, les représentants arrivent avec une liste de naturalisation, de régularisation. Ils n'ont jamais eu le temps de s'occuper des problèmes généraux. Bon, c'était très gentil de la part des interlocuteurs ministériels, du temps de Billon, etc. Mais les autres ne parlaient que de la mise au point des relations de l'État laïque avec l'islam. Or, là, une des raisons de la lenteur de ce processus, c'est l'alternance. L'alternance, c'est la démocratie. Or, les socialistes arrivent, ils font du passé table rase, et les propositions de la commission Dominati, il n'y a que Mitterrand qui s'en souvenait parce qu'il lisait Le Monde, mais on a opté, et Mitterrand y a pensé en 89, au moment de la marche d'un millier de Parisiens qui protestaient contre les versets sataniques de Rushdie. Le Monde a titré « Un millier d'intégristes à Paris ». Bon. Mitterrand a dit « Trouvez-moi Ali Merad et faites-le venir ». Il se souvenait de son nom quand il était parlementaire avant d'être président. Alors que les ministres socialistes pour l'islam, il n'y avait que des travailleurs immigrés. Et il fait venir Merad qui lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez de cette tension, cette agitation médiatique ?» Il lui a dit « Monsieur le ministre, ces jeunes-là qui manifestent, ils ont besoin d'être éduqués ». Il lui a dit « Faites-nous des propositions ». Et Merad présente un projet d'un établissement d'enseignement supérieur musulman, avec trois possibilités. C'est une faculté théologie musulmane à Strasbourg, où le droit concordataire permet le financement public. Deux, un institut calqué sur l'institut catholique, 50% privé, 50% public. Mitterrand était prêt à porter... la part du public, mais Merad l'a mis en garde. Il a dit le financement privé musulman ne peut venir que des pétromonarchies et ça importera des théologies rétrogrades. Troisièmement, quelque chose qui finira par être attaché à la cinquième section, là où il y a l'ORI maintenant, sciences religieuses, et Mitterrand a eu une préférence pour la faculté de théologie. Et c'est resté en l'état jusqu'à ce que Jox arrive. Jox est revenu au ministère de l'Intérieur après la réélection de Mitterrand en 88. Il ne s'est jamais occupé d'islam jusqu'au vœu pieux de début janvier 89. En présence du ministre, il y avait tous les autres cultes. Mitterrand apprend, à part Jacques, il lui a dit, c'est pas normal, moi, beaucoup de musulmans ont voté pour moi, et il n'est pas normal qu'il soit pas représenté ici. C'est à ce moment-là que Jacques, il lui a dit, l'an prochain, je veux un représentant des musulmans. Et il a commencé ses consultations avec le Cheikh Labbès, qui était là. Et alors, le Cheikh Labbès décède début mai 89. Et Jacques vient ici, et il va même à l'ambassade d'Algérie, voir le ministre des Cultes qui est venu le jour même, il lui a dit, il faut qu'on se concerte pour la succession. Or, le ministre lui dit, la mosquée est algérienne, brutalement. Et Jacques sort, Jacques, quand il se met en colère, hein, il est très poli, diplomate, fils de diplomate, mais il lui a dit, elle ne restera pas longtemps. Et il téléphone à Audibert, l'ambassadeur de France à Alger. Il lui dit, les Algériens vont demander le visa pour un recteur qu'ils vont nommer unilatéralement, ne lui donnez pas. Or, un général puissant à Alger présente la candidature de Haddam, et Audibert, qui venait de la cellule diplomatique de l'Élysée, consulte Mitterrand et lui dit, bien sûr, il faut lui donner. Et Jacques a vécu ça comme un affront. Et Mitterrand ne voulait pas de bras de fer. Mitterrand, il suivait ça par... Après, il a nommé Georgina Dufoy, Mutin, même Bianco m'a dit qu'il consultait de temps en temps. Il a dit, si on nomme Haddam, une objection ne peut venir que du Maroc. Or, il informe Hassan II, qui se trouve avoir été l'ami de Haddam quand il était étudiant. Et Hassan II lui a dit, c'est le meilleur choix possible. Et donc, mais à partir de là, Jacques refusait tout ce qui venait de l'Élysée concernant l'islam, notamment la faculté de théologie musulmane. Parce qu'il a décrété à Strasbourg, le concordat était un résidu de l'histoire, il ne saurait être appliqué à l'époque. J'ai commencé par 1838, où le Quai d'Orsay disait, le concordat, rien que le concordat, tout le concordat. Mais dans un autre contexte, on nous dit que le concordat ne s'applique pas. Et donc là, c'est une autre occasion manquée, alors que ça aurait pu régler tous les problèmes de formation des cadres religieux, avec, je vous passe les détails, les arguments qu'on nous donne. On ouvre un cimetière exclusivement musulman à Strasbourg, en application du droit local, déduit du concordat. Mais on nous dit que le concordat ne s'applique pas pour l'enseignement. C'est à croire que le concordat ne s'applique qu'aux morts, quand ils sont... Alors qu'ailleurs, qu'en zone concordataire, vous avez des carrés musulmans, pas de cimetières musulmans. Bon, donc là, puis comme l'opinion musulmane existe, mais elle lit les journaux, puis elle se tait. Maintenant, il y a une opinion qui réfléchit, les jeunes qui sont instruits. Donc, Jacques crée le Corif. Et son conseiller à l'époque, moi, je suis passé le voir plusieurs fois. Il m'a dit, moi, je ne connais pas, il faut nous aider et tout. Et quand je l'ai revu, là, pour mon livre, il m'a dit, il faut que tu saches que le Corif n'était pas destiné à organiser l'islam en France. Je lui ai dit, quel était son but? Il m'a dit, je te le dirai une autre fois. Donc, c'était le secret d'État. Bon, on peut deviner pourquoi. Je le dirai dans mon prochain livre, parce qu'il faut révéler... Je ne pouvais pas tout révéler dans... La France et ses musulmans. Et c'est resté Pasqua arrive, en 93, les socialistes perdent les élections, et ils décident de ne pas faire appel au Corif. Il a même cité une formule latine, restat in pacem, qu'il repose en paix. Il est mort, donc on ne le ressuscite pas. Mais Pasqua décide d'attribuer toutes les recettes de la taxe halal à la seule mosquée de Paris. Un arrêté, les centralistes, comme on les appelle, du bureau central des cultes, ont trouvé que c'était conforme. Mais après, Debré arrive, on lui dit qu'il y a des chicayas marocaines récurrentes à Rungis, etc. Il abroge le précédent arrêté, il attribue la perception de la taxe halal à la mosquée de Paris, à la mosquée d'Evry, à la mosquée de Lyon, autrement dit les mosquées les plus riches d'Europe. Et les autres mosquées n'obtiennent absolument rien. Et alors, Pasqua avait une bonne intention culturelle, parce qu'il est venu couper le ruban pour inaugurer l'Institut ici, en octobre 1993. Donc il a donné les recettes pour faire fonctionner l'Institut. Les intentions étaient pures. Parce qu'on lui a dit, les types sont cabinés, c'est très difficile de financer le culte, on va avoir des chikayas, la iscarde, etc. Mais jusqu'à maintenant, vous avez des puristes, là, après la prose de l'Institut Montaigne, 617 pages en une seule fois, vous avez des avocats, des juristes qui vous disent la taxe halal, c'est une sorte d'impôt communautaire qui ne concerne qu'une catégorie de citoyens. Comme le prélèvement, la taxe sur les billets du pèlerinage. Ça ne concerne que cette catégorie et c'est contraire au principe d'égalité. Ça revient aux impôts arabes du temps de l'Algérie française, où un commerçant de Constantine, il paye l'impôt laïque, mais il paye ce qu'on appelait les impôts arabes hérités de la période turque, de l'inégalité fiscale. Bon, je parle sous le contrôle d'un grand juriste.
Et des magistrats aussi.
Oui, non, mais vous avez étudié la casuistique. Oui. Et donc, c'est resté en l'état jusqu'à l'arrivée de Chevènement. Chevènement a fait preuve d'un grand volontarisme, où il a commencé par proposer une école des hautes études de l'islam. Bon, donc je vous ai dit qu'il y avait un désaccord entre le président et son ministre d'État. Chevènement était ministre d'État dans le gouvernement de la gauche plurielle. Moi, j'ai été sollicité deux ou trois fois par Mochan, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Il a dit la priorité, c'est d'enseigner l'islam. Chevènement, lecteur de Berck, etc., il a présenté le projet, mais il a été détourné à cause d'une complaisance de Jospin. Je vous passe les détails. Chevènement ne pouvait pas. Il était déjà en conflit avec Jospin sur la Corse. Il n'allait pas charger la barque sur l'islam. Bon. Et puis après, il était candidat. En 2001, il a annoncé qu'il était candidat. Et jusqu'à maintenant, à chaque fois que Jospin parle, il dit « j'ai été battu à cause de la candidature de Chevènement ». Et puis les humoristes disent que Taubira, quand elle était haut dans les sondages, aurait pu être élu si Jospin n'avait pas été candidat. Bon. Et donc ça a été une grande occasion manquée. Et là-dessus, Chevènement se rabat sur l'istishara, qui veut dire consultation en arabe. Et puis, c'est lui qui était vraiment son cabinet, la cheville ouvrière de ce que sera le CFCM, dont Sarkozy a accéléré la création. Parce que les autres, il y a des palabres. Sevestre, qui était au bureau central des cultes, m'a donné 1000 pages, je ne les ai pas encore lues. Que des palabres. Mais qui sont intéressants à lire, parce que Hakim al-Karoui ignore jusqu'à leur existence. Tous les problèmes de l'Institut Montaigne ont été étudiés sous la férule de Sevestre. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, sous-préfet. Il vient de la marine, lui, un catholique pratiquant qui respecte la sensibilité religieuse musulmane. Et donc, on a un résultat que j'ai approuvé, moi, personnellement, malgré tous les travers. On a un conseil. Créer, déclarer à la préfecture, association, statut très précis, mais en islam et ailleurs, les institutions ne valent que par la qualité et l'intelligence de ceux qui sont chargés de les animer. Or, le CFCM, on est obligé de constater au moins un demi-échec, parce qu'il ne s'est jamais occupé des problèmes de financement, c'est-à-dire tous les membres du CFCM étaient déjà dans le bureau de la Fondation des œuvres de l'islam de France créée par De Villepin pour régler le problème du financement. Et ça a été bloqué par les sarkozistes. Tout ce qui venait de Villepin, ils ne voulaient pas en entendre parler, Hortefeux et Guéant.
Bonjour Didier.
C'est ce qui fait que, après, il a fallu que le sang coula en 2015. Pour que Bernard Cazeneuve dise on crée une autre fondation, et les membres de l'ancienne fondation qui n'a jamais fonctionné ne peuvent pas en faire partie. Tout un remue-ménage. Bon. Toujours est-il que cette fondation a été présidée par Chevènement avec tous les remous. Moi, j'ai défendu Chevènement contre les chicaïens des autres, il faut un musulman, etc. Mais quand il a été remplacé par Ghaleb Benchir, vous avez Ghaleb qui est interdit d'antenne, alors qu'il présente l'émission islamique depuis 20 ans. Ouais, parce qu'un ancien vice-président de la fondation de Villepin, qui s'appelle Hafiz,
Shamseddine,
qui a été placé par Sarkozy sans aucune consultation. Je vous passe les détails. Et il était candidat pour la FIF, comme il a été battu, il a inventé cette incompatibilité entre les deux fonctions. Et là, ça se termine devant les prud'hommes. Donc voilà, abandonnés entre eux, ils ont tous pris individuellement. Les membres du CFCM sont des gens délicieux, mais collectivement, ils n'arrivent pas à travailler ensemble. Ça, c'est un mystère. Et moi, personnellement, j'ai défendu Ghaleb.
C'est d'éclaircir le mystère.
Oui. Alors, Ghaleb, on lui reproche d'être un brillant intellectuel. Les autres sont anti-intellectuels. Je termine par une de leurs sorties que Bernard Godard m'a racontée en temps réel.
Concernant le BCC aussi.
Quand on a fait venir l'UOIF, la Grande Mosquée, les fédérations, etc. Et puis, du bout des lèvres, on leur a dit qu'il faudrait des personnalités qualifiées parmi les intellos. L'UOIF a commencé par dire non, ils viennent nous faire perdre du temps. Et quand le ministre a insisté, ils ont dit d'accord, on les accepte, mais ils n'ont pas droit de vote. Donc on aurait eu un double collège, les intellos qui ne votent pas et les grands caïds qui sont les vrais décideurs. Donc voilà l'état d'esprit qui règne, parce que, je termine par là, je pense que au ministère on a dû s'en apercevoir, quand on fait appel à un inconnu qui sort de l'anonymat et puis qui fait des déclarations à la sortie de la place Beauvau, il se considère comme intronisé par le ministère. Et donc il est le plus légitime, surtout par rapport aux gens que le ministère n'a pas sollicité. Et ça ne fonctionne pas à cause de ça. Voilà, donc je termine par une exception.
On termine.
C'est les aumôneries militaires. Ouais. Qui sont la réalisation la plus positive de toutes ces tentatives sur plusieurs décennies. Mais malgré ça, depuis que Castaner a réuni les membres du CFCM en janvier à l'Institut du Monde Arabe, où ils avaient peur, une peur bleue des déclarations de Hakim Al-Qaroui, et ils considéraient comme un danger qui allait les priver des recettes de la taxe halal et du pèlerinage. Et moi, Hakim Al-Qaroui pose de très bonnes questions, il apporte rarement les bonnes réponses, un peu comme... Et il leur a fait peur, mais Castaner les a rassurés en disant « c'est avec vous qu'on travaille
bon. ».
Et depuis cette réintronisation, le colonel Harbi a été convoqué par ses grands caïds pour lui le sommer, de les consulter à chaque nomination, de nouvelle nomination d'aumônier militaire. Chacun veut défendre sa crèmerie en défendant des gens à lui. Voilà.
Donc,
on a une structure clanique. Oui, le CFCM l'a convoqué comme convocation vraiment combinatoire. Voilà. Donc, je termine sur une note qui n'est pas très, très optimiste, même si je dis que les aumôneries militaires, c'est un succès. Voilà.
Il y aura du temps pour les questions. Merci, Sadek.
Merci, monsieur.